Nous continuons la série de prédications sur la première lettre de Pierre. Et je rappelle les épisodes précédents pour ceux qui auraient raté la série, qui ne passe pas à la télévision, hélas. D'abord, dans les premiers versets, ce sont les salutations, comme toutes les lettres ou les épîtres. Et c'est l'auteur se présente. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Il écrit dans les années 60 du 1er siècle. Les destinataires de la lettre, ce sont des petites communautés chrétiennes ou des chrétiens c'est dans l'Empire, et il les appelle des résidents temporaires. On l'a lu aussi tout à l'heure. Des gens de passage. Et puisqu'ils sont dispersés dans l'Empire et qu'ils sont considérés comme quantité négligeable, cette lettre de Pierre sera une lettre d'encouragement. Et le premier encouragement qu'il leur donne, c'est qu'il leur parle de l'espérance. C'est une vie, la vie que vous menez en Christ, c'est une vie faite d'espérance, une espérance vivante qui vous donne la vie. Et il leur parle d'un héritage qui leur est gardé dans le ciel et pour lequel ils sont gardés aussi. Une espérance qui perdure malgré les épreuves, l'espérance à l'épreuve des épreuves. Des épreuves qui sont limitées et qui sont quelque part formatrices, qui travaillent notre foi. Et puis, il lance un autre appel, c'est un appel à la sainteté. On parlait d'un encouragement, mais c'est un appel que Dieu nous lance à tous. Vous, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. C'était 1 Pierre 1, 13 à 21. Et puis, à la suite de cela, il lance un appel à l'amour. L'amour toujours, eh ben oui, l'amour tout le temps. L'amour toujours, c'est la marque de fabrique du chrétien. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, avec plusieurs adjectifs. Enfin là, il y en a qu'un, un adverbe. Ardemment, il y en a d'autres un peu plus loin dans le passage, mais d'un amour consistant, ardent. Un amour Philadelphia, on avait parlé de les uns pour les autres. Et Pierre va continuer dans l'encouragement dans le chapitre qui nous occupe et que Philippe a lu, ce chapitre 2, verset 4, on va dire à 10 ou 12, 13. Et vous l'avez entendu, là, il va mettre le paquet. Et on pourrait presque dire qu'il est dithyrambique. Vous êtes une race élue, une nation sainte. Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses, etc. Il en met beaucoup. Et vous savez, je ne sais pas si vous en souvenez, nous avons déjà parlé de ce passage en septembre. Mais nous l'avions lu sous l'angle des pierres vivantes du début du passage. Devenir des pierres vivantes, et nous avons comme vestige ce tube de pierres vivantes où chacun a pu inscrire son nom. Et je voudrais signaler que ce vase est encore ouvert et que celui qui veut peut encore ajouter sa pierre à l'édifice. Bien sûr, nous ne vivons pas l'Église en vase clos, pas du tout en vase ouvert. Ouvert à toutes les pierres qui se sont approchées de la pierre d'angle, la clé de voûte de tout l'édifice, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qui veulent participer en tant que pierre vivante à ce projet un peu fou qu'est l'Église. Aujourd'hui, nous allons prendre ce passage sous un autre angle, un angle qui apparaît au verset 5. « Édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Là, on est encore dans l'édifice avec les pierres vivantes. Mais deuxièmement, « et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Et donc, on est dans l'angle, avec l'angle langue de poing, nous sommes tous prêtres, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, sous l'angle de la prêtrise, du sacerdoce, de la sacrificature. C'est quoi ces mots? Et il est ajouté aussi au verset 9, là c'est le deuxième texte, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. » La seconde traduit « un sacerdoce royal, une royale prêtrise ». Et donc, nous allons nous intéresser quelques minutes à cet angle-là. Après les pierres vivantes, les prêtres. C'est ce que nous sommes tous, d'après ce passage de Pierre. Nous sommes tous des prêtres, et ça sonne beaucoup moins bien, et des prêtresses. Et c'est un angle intéressant parce que il a été découvert par Luther, ce grand réformateur allemand du XVIe siècle. Voilà une image de Luther. Voilà Luther, qui en 1517 a placardé sur la porte de thèse. D'ailleurs, nous fêtons cette année, 2017, les 500 ans du début de la réforme, parce qu'on date le début de la réforme de ce placardage des 95 thèses de Luther sur les portes de l'Église catholique de Wittenberg. Alors on sait que la plus grande découverte ou redécouverte de la réforme protestante est le salut par la foi. Luther a lu l'épître aux Romains et il s'aperçoit que c'est par la sola gratia et la foi seule qu'on est sauvé, justifié, et non pas par les œuvres ou par la course au mérite. Mais il y a une autre grande découverte de la réforme et de Luther et qui vient justement de ce texte de 1 Pierre et qui s'appelle le sacerdoce universel, la prêtrise universelle. Autrement dit, le fait que nous soyons tous prêtres. Et à l'époque, c'était assez révolutionnaire que de dire que tout le monde était tous prêtres, puisque le clergé catholique avait bien verrouillé toute la place. Le clergé d'une part, les laïcs de l'autre. Les laïcs vient du mot laos, qui veut dire peuple. Le clergé d'une part, le peuple de l'autre. Et la ligne de démarcation était bien marquée par l'idée justement de sacré. Le prêtre seul était habilité à célébrer la messe, à dispenser les cinq sacrements de l'Église catholique, à recevoir la confession et même à lire la Bible. Et comme le prêtre a la permission, ou le prêtre consacré a la permission de rentrer en relation avec le sacré, de toucher au sacré, il était vraiment l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et Luther, qui lit sa Bible avec un œil nouveau, a déjà intégré l'Épître aux Romains, mais il comprend aussi cette vérité fondamentale, en lisant 1 Pierre et l'Épître aux Hébreux, que le sacerdoce, la prêtrise, doit être vécu différemment aujourd'hui. Enfin, je veux dire, au XVIe siècle. Et il en parle dans un écrit de 1520, qui s'appelle « Lettre à la noblesse chrétienne de la nation allemande ». Ce sera un petit peu historique ce matin. Mais il y a parfois des thèmes qui nous appellent à regarder à l'histoire. Voilà ce que dit Luther. On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés « état ecclésiastique ». L'Église, en quelque sorte. Et que les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans seraient appelés « état laïque », ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence. Nous avons un même baptême, un même évangile, une même foi et sommes de la même manière chrétiens car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique. En conséquence, nous sommes tous, absolument tous, consacrés prêtres par le baptême. Tous nous sommes prêtres, sacrificateurs et rois. Allons-y. Nous avons tous les mêmes droits. Et vous imaginez combien c'est révolutionnaire à l'époque. Voilà. C'est devant la confiscation par le clergé, ou devant la confiscation. Voilà, c'est dit. Voilà, il me manquait un mot. Devant la confiscation par le clergé, Luther réagit à sa manière, Bible en main, pas en moins, et il relance le sacerdoce universel. Le fait que si nous sommes chrétiens, nous sommes tous consacrés prêtres devant Dieu. Il n'y a pas de séparation entre clergé et peuple, qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qu'il est en son Fils Jésus-Christ. Alors, nous sommes tous prêtres. Le sacerdoce universel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, en deux points. Ça veut dire, d'abord, que quelque part, il n'y a qu'un seul prêtre, en fait, Jésus-Christ. Lorsque nous disons que nous sommes tous prêtres, c'est en même temps dire que personne ne l'est. Si tout le monde est quelque chose, personne ne l'est véritablement. Si tout le monde est beau, Personne ne l'est puisqu'il n'y a plus de différence pour en juger. Et donc dire que nous sommes tous prêtres veut dire que personne ne l'est, ou plutôt qu'un seul l'est véritablement, et que cette personne est Jésus-Christ. C'est lui le véritable prêtre, qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et l'Épître aux Hébreux, qui fait la comparaison entre l'ancienne alliance, qui est l'ombre des choses à venir, l'Ancien Testament si on veut, et la nouvelle alliance qui est venue en Jésus-Christ, et l'Épître aux Hébreux nous le dit bien, c'est Christ, le prêtre, qui obtient le pardon de Dieu et s'offrant lui-même en sacrifice, et qui nous donne un libre accès à la présence même de Dieu. Il rétablit, Jésus, la relation avec le sacré, si vous voulez. Et on peut dire que toute la prêtrise, tout le sacerdoce s'accomplit en lui. Nous n'avons plus besoin de rien après cela. On n'a pas besoin de sacerdoce, on n'a pas besoin de prêtre. Jésus est le seul prêtre et tout est accompli en lui. Alors j'ai cité Luther tout à l'heure, mais pour ne pas faire de jaloux, je vais citer Calvin. Un commentaire de Jean Calvin sur Hébreux 7 dont je parlais. Voilà ce qu'il dit. La dignité sacerdotale n'appartient qu'à Jésus-Christ. Puisque par le sacrifice de sa mort, il a effacé la dette qui faisait des criminels devant Dieu. Jésus-Christ est notre pontife. Il y en a un autre qui s'appelle souverain pontife. Non. Jésus est notre pontife, qui vient de pont, hein, qui nous fait le pont, qui est entré dans le sanctuaire du ciel, dont il nous ouvre le chemin et auquel il nous donne accès. Et voilà comment il continue Calvin. J'ai retrouvé la photo de Calvin, prise il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est Calvin. Il est notre autel sur lequel nous plaçons nos offrandes. En lui, nous osons tout ce que nous osons. En résumé, il est celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, comme il est dit dans Apocalypse 1:6. Pour Calvin, comme pour Luther, et comme pour tous les lecteurs attentifs de la Bible, le seul prêtre, c'est Jésus-Christ. Mais en même temps, et Calvin le dit, en lui nous osons tout ce que nous osons, puisqu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, et nous pouvons dès lors dire que nous sommes tous prêtres, mais que nous le sommes en lui, par lui. Et avec lui. Jésus est le seul prêtre, mais nous sommes tous prêtres en lui, avec lui et par lui. Et Calvin ajoute quelque part aussi que Jésus a fait de nous des compagnons, ses compagnons, dans cet office de prêtre. Il est l'autel sur lequel nous pouvons déposer nos offrandes. Il est l'autel sur lequel nous pouvons déposer nos offrandes. Jésus-Christ est lui-même l'autel. Alors, nos sacrifices, qu'est-ce que nous pouvons offrir comme sacrifice? La Bible parle de quelques sacrifices. Hébreux 13, par Jésus, offrons donc à Dieu un sacrifice de louange. Par Jésus. Nous sommes sacrificateurs, prêtres, par Jésus. Romains 12, on connaît ce texte. Il s'agit d'offrir notre corps comme un sacrifice. Et heureusement que la Bible ajoute « vivant ». Et qui reste vivant. Ce n'est pas un sacrifice vivant que l'on va sacrifier pour qu'il meure. C'est un sacrifice vivant et qui reste vivant toute sa vie pour le service. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure d'un Pierre nous parle d'un groupe de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Eh bien, parce que c'est par lui que nos sacrifices deviennent agréables à Dieu. C'est parce qu'il est mort pour purifier en quelque sorte nos sacrifices que ces sacrifices peuvent être agréables à Dieu. Et donc nous sommes sacrificateurs par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est l'autel sur lequel nous pouvons présenter nos sacrifices et qu'ils deviennent alors agréables à Dieu parce que Jésus est mort. La Bible nous parle, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il intercède pour nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus au ciel est en train de prier pour nous? Seigneur, je te prie pour qu'il réussisse ses examens, etc. Enfin, Dieu le Père, je te prie pour... Je ne crois pas. Il intercède pour nous dans le sens où il se tient à la droite du Père et il dit au Père, voilà, cet homme-là, cette femme-là qui veut t'offrir un sacrifice de louange ou son corps en sacrifice, son service en sacrifice, eh ben, je suis mort pour elle, pour lui. Et donc ce sacrifice peut être agréable parce que ma mort l'a purifié. Parce que ma mort l'a rendu agréable, parce que j'ai tout pris sur moi, tout ce qui pouvait entacher ce geste qu'il fait pour toi, mon Père. C'est de cela qu'il s'agit quand on dit que Jésus intercède pour nous de manière permanente. Nous sommes sacrificateurs ou prêtres en lui, par lui, avec lui. Alors pour résumer, je vous donne une définition du sacerdoce universel telle que je l'ai lue dans un commentaire biblique. Le sacerdoce universel signifie qu'à travers Christ, c'est-à-dire son œuvre sur la croix, chaque chrétien a un accès immédiat à Dieu, qu'il peut servir Dieu personnellement, qu'il peut avoir un ministère service auprès des autres et qu'il a quelque chose à donner. Dans ce verset, Pierre met l'accent sur le fait qu'à travers Christ, le croyant est capable d'adorer et de servir Dieu d'une manière qui lui plaît. Et il faut noter qu'il est écrit d'une manière qui lui plaît et non pas qu'il lui plaît, qui serait son plaisir à la personne, à ma personne, mais qui lui plaît, qui plaît à Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu lui est agréable par Jésus-Christ. Nos sacrifices, nos services lui sont désormais agréables. Et il faut noter dans cette définition, ce qu'il faut noter dans cette définition, c'est l'introduction du mot service, ministère, dans ce thème du sacerdoce universel. Nous sommes tous prêtres, veut aussi dire que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous serviteurs de Dieu ou que nous avons tous un ministère particulier. Et j'aimerais parler maintenant de trois conséquences pratiques. J'aurais dû ajouter des guillemets à pratiques, elles ne le sont pas tant que ça, mais pour terminer, voilà, des remarques liminaires ou post-liminaires. La première de ces remarques, c'est que le sacerdoce universel n'exclut pas des ministères particuliers. Et il faut bien faire attention quand on parle du sacerdoce universel, qui veut dire qu'il n'y a pas de clergé, et c'est vrai, il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cela ne veut pas dire, le sacerdoce universel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère particulier. Et Luther, pour le citer encore, le disait, même si nous sommes tous prêtres, nous ne devons pas tous prêcher ou enseigner ou gouverner, mais on doit en sélectionner un certain nombre parmi la multitude et choisir ceux auxquels on veut confier un tel ministère. Le sacerdoce universel ne veut pas dire uniformité dans le service. On ne nivelle pas tout par le bas ou là, par le haut. En tout cas, on ne met pas tout au même niveau. Et on revient à l'enseignement de la Bible sur les dons spirituels. Dans Éphésiens 5, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et docteurs, pour le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Alors on a du mal, dans ce verset d'Éphésiens 5, à savoir s'il s'agit de fonctions ou de ministères établis ou de dons, mais on peut peut-être dire les trois en même temps. Mais en tout cas, il est donné à l'Église des gens doués pour le servir, dans tel ou tel domaine, pour prêcher la parole. D'autres pour accompagner, d'autres pour exhorter, d'autres pour prendre soin des autres. Nous avons tous des dons particuliers. Attention donc à ne pas penser que sacerdoce universel signifierait la fin des ministères particuliers, mais attention aussi à ne pas recléricaliser l'Église. J'ai à chaque fois souligné sur mon ordinateur en rouge, recléricaliser, ça n'existe pas. Il y a Émile Brunner, un pasteur suisse de la première moitié du XXe siècle, qui disait « Le malheur du protestantisme allemand vient que, dès la Réformation, il soit devenu une église de pasteurs. L'église, qui a pourtant découvert le sacerdoce de tous les croyants, n'a jamais réussi à faire de ses laïcs des collaborateurs spontanés et conscients de leurs responsabilités. En gros, nous dit ce pasteur suisse, mais ça ne concerne peut-être que la Suisse, elle est restée cléricale. » En d'autres termes, ce que nous dit Émile Brunner, c'est « chasser le naturel, il revient au galop ». On a le sacerdoce universel dans la parole de Dieu, on le vit. On le proclame, et tout à coup, le naturel de la prêtrise qui veut qu'on mette des hommes ou des femmes sur un piédestal, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, Des évangélistes, des conférenciers bien formés, bien inspirés, bien charismatiques, et pouf, on les remet sur le devant de la scène spirituelle et on fait d'eux quasiment, jamais, on l'exprime pas, mais quasiment des intermédiaires. Et on le fait, me semble-t-il, parfois par paresse, par facilité, parce que c'est plus facile, soit par inclination à une certaine idolâtrie. Mais il me semble en tout cas que parfois on charge un petit peu trop la charrette et on retrouve, on reclaric... je ne vais pas le dire, on rend l'Église cléricale. Et pour sourire, je pense à toutes les fois que d'une manière ou d'une autre, on pense que la prière du pasteur, c'est mieux. Quand on dit « quand le pasteur prie, c'est mieux ». Et même pour la prière avant le repas, on donne souvent la parole au pasteur comme si sa prière allait sanctifier la nourriture d'une manière toute particulière. Comme si, quand le pasteur prie, la nourriture s'en trouvait meilleure. Alors je souris parce que c'est pas si grave et on va pas en faire tout un plat. Mais il me semble que derrière ça, on trouve quelques résidus de cléricalisme. De l'idée de l'homme de Dieu consacré, qui touche donc au sacré, et donc que tout ce qui touche le devient également, d'une manière toute particulière. Et que, quelque part, il me semble qu'on n'a pas encore vraiment saisi le sacerdoce universel. Et puis, troisième remarque, conséquence pratique de ce sacerdoce universel, il nous faut vivre pleinement notre service chrétien, ou notre ministère chrétien. Et le mot « ministère » ne devrait pas être réservé aux pasteurs ou les missionnaires ou d'autres. Nous avons tous un service ministère. C'est synonyme, complètement synonyme. Et donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon que le sacerdoce universel est comme un appel à entrer au service de Dieu. Il est là, il vous attend, la porte est grande ouverte. Il n'y a plus qu'à. Nous sommes tous prêtres, prêts pour le service, ministère, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne les dons qu'il faut pour ce service précisément. Pour la préparation au baptême, à chaque fois, la dernière séance a pour titre « Le baptême et alors ?» Qu'est-ce qu'il y a après ? Et on répond à la question en disant que Dieu nous appelle à être ses disciples, à demeurer dans la parole, à rejoindre un groupe de disciples. Et enfin, Dieu nous appelle au service. Et on cite le verset d'un Pierre qui a dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Et on a tout dans ce verset, le charisme, le service, le don, hein, charisme, le service et la grâce, dont on n'a pas fini d'explorer la richesse, comme nous le disait Adé tout à l'heure. Encore, faut-il y aller et prendre ce sacerdoce universel, chacun particulièrement. En juin, les trois premiers jeudis du mois, nous aurons une formation qui fait suite à la première du mois de janvier, qui s'intitulait, vous vous en souvenez, « À la découverte de la maturité spirituelle ». Cette fois-ci, ce sera... Wow ! « À la découverte de son ministère et de ses dons ». Ce sera une bonne manière de rentrer dans ce sacerdoce universel que Dieu ouvre à chacun en particulier. Merci. Et il y a une dernière diapo qui résume. Le sacerdoce universel, il n'y a qu'un seul prêtre, Jésus-Christ. Nous sommes prêtres en lui, par lui et avec lui. Et les trois conséquences pratiques, le sacerdoce universel n'exclut pas les ministères particuliers. Deux, il faut veiller à ne pas recléricaliser l'Église. Trois, il nous faut vivre pleinement notre service chrétien. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.